à portée de mots. La musique et les lettres. Avec Axel Thierry sur Musique 3. Bonjour, Axel Thierry au micro, Bertrand Van Varenberg à la réalisation et Bénédicte Banet dans le studio In Situ à Paris. Nous sommes en duplex aujourd'hui et j'ai la joie d'accueillir Jean-Yves Clément. Bonjour.
Bonjour, joie réciproque aussi, partagée.
Merci beaucoup et puis merci d'avoir accepté cette invitation à parler de votre livre « Le retour de Majorque » paru aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Alors tout d'abord un petit mot de présentation. Vous êtes poète, écrivain, éditeur, philosophe, pianiste, musicologue, directeur artistique de festival, dont le Festival de Nohant, où vous nous emmenez notamment dans ce livre. Vous êtes également journaliste et critique musicale pour la revue Diapason, pour France Musique. Depuis le 16 septembre 2020, vous êtes également président du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'Orchestre royal de chambre de Wallonie. Jean-Yves Clément, vous avez écrit plusieurs essais sur la musique, parus chez Actes Sud, des recueils de poèmes, aussi d'aphorismes. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de ce livre, Le Retour de Majorque. Alors, un journal où vous retracez le voyage de Frédéric Chopin et Georges Sand jusqu'à Nohant, entre les mois de février et juin 1839. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Comment est-il né?
Un peu d'un défi, comme tous les livres en fait. Le défi était de me mettre dans la peau de Chopin pour lui faire parler de ce voyage et plus précisément de ce retour célèbre de Majorque à Nohant, puisque le but, l'aboutissement, c'est Nohant chez Georges Sand. Et puis c'était une façon secrète intérieure pour moi d'écrire sur les préludes qui sont pour moi, qui constituent une œuvre phare dans le piano romantique et a fortiori dans l'œuvre de Chopin. Donc il y avait une espèce de mise en abîme entre la volonté romanesque, évidemment aussi, de retracer ce célèbre voyage, même si tous les faits sont exacts, bien sûr, et puis cette envie donc d'aller au cœur des préludes dont Chopin a clos le cahier à Majorque, même s'il n'en a écrit qu'un tiers environ là-bas, mais qui reflète toute sa psyché là-bas, mais en général aussi. Voilà, c'est un peu ça, le double discours, si je puis dire.
Et si je vous demande ce que vous appréciez le plus dans ce recueil de préludes de Frédéric Chopin, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
La forme, pour une raison double aussi, le côté aphoristique qui m'est très proche de l'écriture de Chopin, qui est très moderne, novateur et qui devait même lui échapper à lui aussi, tellement ce geste est étonnant, ces sortes de fausses improvisations, parce que notées en fait de façon très très savante. Et puis le côté cycle, c'est-à-dire parcours comme un parcours de vie. Au début, on est déjà à la fin on se retrouve au début, et il y a tout un parcours musicologique déjà très établi de la part de Chopin par tonalité. Et puis des états d'âme qui se chevauchent comme ça, qui parcourent ce cahier de façon très suivie et très cohérente. Et puis on y découvre toutes les facettes de Chopin et surtout cette alternance que moi j'ai relevée dans d'autres essais, ce côté presque bipolaire de Chopin, à la fois qui cultive les moments de joie intense, si radiante, et puis ce côté très dépressif, très sombre, et tout ça de façon très rapprochée et très rapide, ce côté un peu presque schizophrénique, on dirait, de manière un peu ordinaire. Voilà, c'est tout ça qui me fascine dans ce cahier.
Et il est né dans des circonstances particulièrement éprouvantes, même si le début de ce séjour à Majorque a été absolument enchanteur. Est-ce que vous pensez que l'intensité de sa vie intérieure et de ce qui le traversait a provoqué cette forme tellement libre ou pas?
Oui, aussi. Et un peu à son insu. Les éléments qui sont vite devenus un peu problématiques et tragiques à Majorque ont révélé en fait à Chopin lui-même ce qui portait de noir, à mon avis, dans son âme, parce que la musique dont il accouche là-bas, en dehors même des préludes, on a une polonaise tragique, une mazurka très déchirée, révèle une sorte de nouveau Chopin très déchiré et qui porte un peu comme un boulet cette âme divisée depuis l'exil entre la France et la Pologne. Et donc tout ça effectivement éclot un peu à Majorque et se révèle de façon très explosive à l'intérieur des préludes, qui sont une œuvre quand même très révolutionnaire de forme, mais aussi qui porte une intensité, encore une fois expressive, tout à fait hors du commun. Pour le coup, le romantisme atteint à des zones étranges et nouvelles, ce qui n'a pas échappé aux commentateurs de l'époque, d'ailleurs, et à Franz Liszt en premier lieu.
Et vous avez des formules très belles, Jean-Yves Clément. Vous écrivez notamment « L'art a besoin sans doute de se tremper dans certains enfers pour renaître autrement ». Et c'est toute l'idée de transmuer la souffrance en musique aussi, en art.
Exactement. Mais pour moi, ces 24 préludes, c'est un peu le chemin de croix, pour filer la métaphore de Chopin, son calvaire, d'où il renaîtra, en fait. Il en renaîtra même clairement et physiquement à son arrivée à Nohant, parce que quand il arrivera à Nohant, dans cette champagne berrichonne, il y aura le soleil, il y aura la douceur de vivre, il y aura un autre monde, et les œuvres s'en ressentiront, d'ailleurs. Donc il y a quand même, il y a effectivement tout un itinéraire, comme ça, et une façon chez Chopin de transmuer la douleur, de la métamorphoser, de la sublimer en art et à travers des pages, pour autant qu'ils portent quand même leur violence et leur déchirement intérieur. En fait, c'est très, très riche et étonnant. C'est un parcours quasi, on va dire, psychanalytique que ces 24 préludes.
Vous nous emmenez à Marseille, également en Italie. Alors, on voit tout le contraste de ce qu'ils ont vécu et que vous décrivez aussi formidablement bien, avec les souffrances espagnoles et puis cette lumière italienne. Parce que quand vous nous emmenez à la suite de Frédéric Chopin et Georges Sand en Italie, vous écrivez « L'Italie est une grande inspiratrice ». Et vous parlez de cette sorte d'état doré qui se projette sur la vie et sur les choses en Italie.
Oui, c'est ce que ressentira aussi Frédéric Nietzsche, qui aimait tant Chopin, qui aimait tant la barcarolle de Chopin, dont Chopin a peut-être eu l'idée à Gênes, comme ça, sur les côtes, même s'il était loin de Venise, et qu'il écrira à Nohant. Oui, l'Italie, pour plusieurs raisons. Chez Chopin, c'est le bel canto, c'est l'amour de l'opéra italien. Vous savez, Chopin n'aimait pas grand-chose en musique. Hein. Rien de moderne, et puis Bach, Mozart, et puis fermer le banc. Mais en revanche, il adorait l'opéra italien, donc le bel canto. Et ça, cette quête de l'Italie du Sud, un peu comme Nietzsche aussi, cette lumière autre, et lui qui vient de Pologne quand même, de pays autrement plus sombres et froids, s'affirme de plus en plus dans sa musique et jusqu'aux œuvres qui naîtront à Nohant, cette espèce d'univers effectivement doré, crépusculaire, dont on peut rêver en fin de vie, cet état peut-être qui rejoint l'âge d'or dont on rêvait enfant. Il y a quelque chose qui se boucle à ce moment-là dans les harmonies, la façon d'être de Chopin, qui est un moderne et qui fait songer à ces moments-là à ce que fera notre Debussy, je dis notre parce qu'il est français quand même, dans son œuvre, lui qui se dira le disciple absolu de Frédéric Chopin. Donc oui, l'Italie et Chopin, c'est très important. Il a parcours concrètement, à Gênes en tout cas, avec Georges Sand. Et ce voyage de retour est aussi une métaphore d'un voyage, bien sûr, intérieur, il n'y a aucun doute, qui dure quand même plusieurs mois, parce qu'ils mettent du temps, de février à juin, avant d'atterrir le 1er juin 1939 à Nohant. Donc c'est vraiment un parcours multiple, pour les deux d'ailleurs. Hein, je pense pour Georges Sand aussi, qu'il ne faut pas oublier cette aventure.
D'autant que c'est aussi une immense artiste, qu'il nourrissait une admiration réciproque, qu'elle a fait énormément pour lui, pour lui permettre, à l'arrivée à Nohant aussi, d'avoir toutes les conditions pour donner le meilleur de son art.
C'était une dame exceptionnelle. Moi, j'y voue un amour éternel. Hein. Pas seulement parce que je dirige son grand festival sur ses terres, mais je trouve que c'est la femme des femmes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de féminisme, à tort et à travers, mais puisons dans l'œuvre de Georges Sand, avec toutes ses facettes merveilleuses, son intériorité prodigieuse de grande créatrice, son ouverture au monde, sa tolérance aussi. Ça n'aurait pas été certainement une féministe à la sauce d'aujourd'hui. Georges Sand, c'était vraiment quelqu'un d'autre, mais elle a tout frayé, tout découvert, tout entendu, au sens propre, parce qu'elle était très musicienne et elle a écrit des pages sur Chopin très étonnantes. Elle a bien compris ce qui se passait là et même la modernité de son compagnon dans ses œuvres. Après, comme vous le dites très bien, elle a été formidable puisqu'elle a donné à Nohant cet écrin de paix, de tranquillité dans lequel Chopin a pu composer. Parce que de retour en France, il ne composait pas à Paris, il donnait 2-3 leçons, des choses comme ça. Mais toute la création, après, vient de Nohant. C'est pour ça qu'à Nohant, 7, 8, 9 ans, on a environ 50 chefs-d'œuvre, si on compte tout, de Frédéric Chopin qui naissent là-bas. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que sur un lopin de terre, si je puis dire, aussi modeste et poussé parmi les plus belles créations de l'histoire de la musique.
Et comment vous vous sentez là-bas, puisque vous êtes responsable du festival? Qu'est-ce que vous ressentez dans cet endroit?
C'est une bonne question, parce qu'en plus, j'y suis arrivé aussi, bon, en pèlerinage. Je suis né pas loin, à Bourges, donc dans le Berry aussi, mais dans le Cher. Et Nohant, c'est dans l'Indre, à 60 kilomètres. Ben là-bas, je me sens un peu comme Chopin, décidément, c'est-à-dire dans le même état de quiétude et de tranquillité, puisque moi, c'est quelque chose qui me parle, la campagne berrichonne, c'est celle que je connais depuis mon enfance, donc je ressens un peu les mêmes choses, ce qu'a ressenti aussi Eugène Delacroix, beaucoup de génies qui sont venus là-bas. Donc, je m'y sens bien en compagnie non seulement de Chopin, de Georges Sand, mais je pense à tous les génies qui sont venus là, qui me sont proches, pour certains, Flaubert... Hugo, il s'aurait pu, mais il l'aimait tellement, Théophile Gautier, Delacroix, donc je l'ai dit, Dumas, enfin c'est incroyable le nombre de personnalités qu'elle a pu rassembler à 40 heures de diligence de Paris à l'époque, rendez-vous compte, il fallait l'aimer pour venir d'aussi loin la voir. Et puis cet esprit communauté d'artistes, c'est quelque chose qui m'est très proche, ces correspondances qui pouvaient se faire entre eux, cette façon d'être amicale, et superficielle et profonde à la fois. C'est un tout, c'est un cénacle. Elle a tout inventé, là aussi, Georges Sand, d'une manière tellement naturelle. C'est assez incroyable. Donc je m'y sens bah, comme chez moi.
Et vous parlez du soleil majeur de Nohant. C'est aussi une très belle expression.
Oui.
Et dans ce que vous décrivez, eh bien, le lieu reste là. Et en même temps, ce sont toutes des présences du passé. Est-ce que vous avez parfois un sentiment par rapport, comment dire, est-ce que, je n'arrive pas à formuler ma question, ce que je veux dire, c'est que vous êtes à une espèce de conjonction, vous savez qu'il y a des esprits extraordinaires qui ont été là, des personnes extraordinaires, alors vous n'avez pas parfois l'impression que vous êtes en dehors du temps?
Pas parfois, tout le temps. Il y a Liszt, mon ami Liszt. Vous savez, moi j'ai l'impression, comme Faust, je dis souvent ça, d'avoir deux âmes en ma poitrine, c'est Chopin et Liszt. En plus, Liszt, je lui ai dédié un grand festival qui est à 30 km de Nohant, à Châteauroux. Donc je suis vraiment au cœur du système, avec Georges Sand au milieu. Oui, ils vivent à travers moi, la preuve, ce livre, hein, quand même, ils vivent avec moi, ils sont là, autour, partout, mais ça ne me pose aucun problème. Je dis souvent que si Liszt venait d'un seul coup, apparaissait à côté de moi, me serrait la main, me demandait si on allait boire un café ensemble, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Je n'ai pas de problème avec ce genre de pensée, en fait. Mmh. Parce que je ne vais pas me lancer dans les discours un peu spiritualistes, je ne sais pas quoi, mais pour moi, ils ne sont pas morts. Il y a cette phrase de Cocteau qui est sublime, il dit « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. » Et en fait, c'est ça, on les fait vivre nous aussi. Mais on les fait vivre aussi parce que sans doute, réellement, quelque part, d'une manière ou d'une autre, ils ne sont pas tout à fait morts. Ils ne sont pas morts même. On est peut-être plus morts qu'eux, nous.
Magnifique.
Être si peu vivant, regardez en ce moment, vous croyez qu'on est vivant en ce moment? On est mort vivant.
On essaye de maintenir ce qu'on peut comme flamme.
Oui, bien sûr.
Donc, mais oui, non, c'est vrai, donc, vous avez raison, il ne faut pas fuir. Là, si vous me proposiez quelque chose, mais oui, c'est vrai. Franchement, c'est angoissant.
Oui, et puis au détriment de quoi? De tout ce qui fait le cœur de la vie, pour moi, de la culture, dans tout ce qui est la vie même. On nous dit que c'est pas ça l'essentiel. Enfin, là, on va sur d'autres sujets, Axel, mais en même temps, c'est plus que
bienvenue.
L'essentiel. Puisque c'est l'essence même de la vie. Donc, c'est n'importe quoi. C'est une erreur profonde. Franchement, ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est effectivement le passé de ces gens. À défaut de se découvrir un présent fécond, vivent ceux qui sont morts, mais sont-ils morts? Non, mais sérieusement, ils sont pour moi très très présents, effectivement, vous avez compris, je suis un peu un homme du 19e. En même temps, je ne voue pas un culte à ça, fétichiste ou machin, je ne suis pas non plus dans le... Non, pas là-dedans, je n'ai pas de mèche de cheveux de Chopin, je n'ai pas de trucs comme ça.
Mais je partage tout à fait ce genre de pensée, oui.
Ben oui, moi j'ai la chance de diriger, enfin d'une certaine manière, c'est pas moi qui le dirige, c'est Van Mardi-Rossian, le chef, mon ami, mais votre magnifique orchestre de chambre royale de Wallonie, en ce moment, il est au point mort, comme toutes les structures du même type en France partout, mais je trouve ça absolument épouvantable.
Alors que la culture est aussi ce qui... Bon, le fait que ce qui est essentiel vient du cœur, c'est une évidence. Et donc, effectivement, on peut s'interroger sur ce qu'on appelle essentiel ou pas. On a besoin d'amour comme d'eau, ça c'est évident. Et puis, on vit avec... La culture aide énormément pendant le confinement.
Ben, il faudrait, mais moi, elle m'aide tout le temps, toute ma vie. Encore une fois, elle est aux sources de la vie, parce que la culture, c'est pas juste la musique dite classique, la littérature, je sais pas quoi. Autant de choses qu'on rangerait dans des tiroirs, comme les chaussettes ou les bodys, c'est pas ça, la culture. C'est quelque chose qui nous environne en permanence. C'est la relation qu'on a aux autres, c'est notre façon d'être, c'est le langage, c'est tout, en fait, c'est un tout. Mais c'est pas cette façon froide et décortiquée de penser les choses hors du vivant. Ça, c'est pas ça. C'est au contraire le vivant même, la culture.
C'est pour ça aussi que c'est extraordinaire ce qui se passait à Nohant, parce qu'il y avait la présence de Lacroix, vous l'évoquez aussi dans votre livre, les conversations qu'il avait avec Chopin, le passage de Pauline Garcia, et il y avait, tout se faisait dans le partage. À cette époque-là aussi, il y avait des salons, et on se demande un petit peu maintenant, à part ces temps de confinement, où ces grands échanges entre des génies se produisent.
Ben, pour l'instant, nulle part, ou par correspondance, ou par écran interposé, mais ou par courrier peut-être, par mail, mais c'est effectivement l'importance suprême que de vivre comme ça, amicalement, en réseau, dans des cénacles, des salons, naturellement. Mais à Nohant, on se disait pas qu'on faisait de la culture et des confitures, à côté, on faisait tout en même temps. C'est ce « en même temps », pas forcément macronien, qui est l'essence même de la culture. C'est un tout. C'est pas des catégories intellectuelles, mentales ou sociales, la culture. C'est, comme vous le disiez, c'est le cœur lui-même.
Si on parlait du premier prélude de Chopin, vous décrivez une échappée vers la lumière. Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce prélude ?
Ben, c'est ce que vous venez de dire, une espèce de jaillissement de l'élan vital, quelque chose, c'est le démarrage du cycle, mais c'est que c'est une échappée de 30 secondes, c'est vraiment une ouverture au soleil, à l'air, aux éléments. Il y a beaucoup d'éléments pour moi dans les préludes, et ça s'appelle pas, c'est le prélude des préludes, dans le sens où il prélude aux autres. C'est une sorte vraiment d'improvisation pour le coup, mais néanmoins on la sent bien construite, même si elle dure 35 secondes. C'est ça qui est merveilleux, c'est de faire tenir à chaque fois un monde en aussi peu de temps, et ça, c'est Chopin qui l'a inventé à ce point-là.
Ça nous amène peut-être aussi à la poésie, Jean-Yves Clément, qui vous est aussi très proche. Parfois, ce sont des formes très brèves. Alors, est-ce que vous avez envie de parler de ce côté essentiel ?
Pour moi, tout amène à la poésie. En fait, c'est la poésie, l'essence même des choses. Je veux dire, la musique étant pour moi qu'une sorte de poésie supérieure, si vous voulez. C'est ça que... Mais pour moi, la grande poésie, celle de Rimbaud, je pense à Rimbaud, parce que Rimbaud, Verlaine, Mons, vous voyez, on y est. Il y a eu des histoires là-bas, célèbres. Rimbaud, pour moi, c'est une forme de musique. Voilà, les grands poètes, ce sont des musiciens, et les musiciens, ce sont des grands poètes sans les mots. Tout ça, ça se rejoint. C'est bien comme je suis, moi, qui prétend, qui essaye de mettre des mots de façon presque analogique sur la musique, puisque j'ai sorti des recueils comme ça, de petits poèmes sur les nocturnes de Chopin, des espèces de pensées sur ses préludes, justement, bien avant de faire ce livre. Donc tout ça, ça se confond. Et oui, tout est poésie pour moi. Donc écrire sur la musique, c'est nécessairement écrire poétiquement. Sinon, on fait du commentaire ou du critique musical, ce que je peux faire par ailleurs autrement, mais c'est autre chose. C'est pas la même ambition du tout.
Est-ce que vous pourriez nous faire entrer dans les coulisses de la jeunesse des mots quand vous écoutez de la musique? Comment vient l'inspiration? Est-ce que vous êtes plongé dans l'écoute à ce moment-là, ou comment ça se passe? Comment est-ce que les mots naissent à partir des sons?
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a deux manières. Ou ça vient tout de suite parce que je la porte en moi, cette musique, évidemment, je la connais par cœur. Ou quand même, c'est en la réécoutant, en m'efforçant de la réécouter, que les mots surgissent comme des images, des visions, en fait. Ils viennent se coller naturellement aux notes, de manière, je le disais, analogique. Voilà, parfois ça vient pas du tout, parfois ça vient tout de suite d'un coup, c'est très mystérieux. Puis d'un interprète à l'autre, évidemment, c'est ça qui est fascinant avec la musique. On n'a pas la même œuvre, on n'a jamais la même œuvre. La musique, c'est jamais la même. La musique, elle n'existe pas, en fait, puisqu'à chaque fois, elle est différente. Donc, faut se débrouiller avec tout ça, vous voyez. Et les mots sont bien faibles pour arriver à dire tout ça. Donc, on fait ça, comme disait Nietzsche, faute de mieux. Je fais des livres, des bouquins, il dit tout ça, ça a été fait faute de mieux. Faute de mieux d'avoir été compositeur, il voulait dire. Ben, moi aussi, en quelque sorte. Faute d'être musicien, je me débrouille avec mes mots.
Et comment est-ce que l'audace intervient pour s'aventurer le plus loin possible ou s'abandonner le plus possible ?
Elle vient par nature. Moi, je me dis même pas que je suis dans l'audace ou pas, ou dans le défi, le risque, parce qu'en fait, j'y suis un peu tout le temps. C'est après coup que je me dis, oh là là, ça c'est gonflé ce que tu as fait. ou même quand j'ai fait des fois des festivals, des événements un peu... Si vous avez créé un festival autour de Liszt à Châteauroux, par exemple, qui a 20 ans cette année, je vous promets qu'au départ, c'était pas gagné. Donc c'est après qu'on a la sensation de peur. Je suppose que les alpinistes, c'est pareil, ils sont en haut, puis pendant qu'ils y vont, bon, ils ont pas le temps, pas envie, puis la peur ne les paralyse pas. Après, on se dit, voilà. Donc l'audace, c'est une façon d'être, mais sans audace... sans égard, sans risque ni audace, ça ne mérite, la vie ne mérite pas de patience. Je ne sais plus ce que dit René Char, mais quelque chose comme ça, lui, qui était vraiment dans l'audace. Ni égard, ni patience, la vie sans risque. Voilà.
Et le fait de vous glisser dans la peau de Frédéric Chopin, qu'est-ce que cela vous a apporté?
C'est aussi un truc littéraire en même temps. C'était la meilleure façon pour moi de dire ce que je voulais dire, moi qui pour le coup suis l'interprète avec les mots des préludes, puisque à partir d'un moment, il écrit chaque jour un prélude différent jusqu'au 24e à l'arrivée à Nohant. Donc c'était la façon la plus viscérale, c'est le mot, d'arriver à pouvoir sortir de moi ce que j'avais à dire sur ces pages qui me sont si proches de me prendre pour lui, bien sûr. Donc ça a été assez naturel comme sensation, et sans trop me poser de questions ou me dire oh « c'est quand même incroyablement gonflé ». Mais en fait, ça l'est. J'en ai bien conscience que ça l'est. Mais je savais que c'était naturel pour moi. C'était authentique, comme on dit. Vous voyez, c'est pas un artifice. Par contre, c'est un exercice littéraire. Ça, c'est sûr.
Et puis peut-être que l'authenticité, ça vous tient très à cœur.
Oui, on peut pas tricher avec ça quand même, sinon on se regarde faire des choses à distance, on se ment, puis on y consent, puis je sais pas, cette vie-là m'intéresse pas beaucoup. Quand on pense que la création c'est ce qui vous est le plus proche, quel que soit le type de création, on peut pas ne pas être authentique là-dedans. Sinon on est tout le temps à côté de ses pompes, c'est le cas de le dire, à côté de tout, à côté de la vie. Après on est technocrate, on est super gendarme, et puis on dit aux autres ce qu'on veut faire, on fait l'ENA et puis on dirige un pays, mais ça c'est pas mon truc.
Oui. Alors vous dites que c'est peut-être gonflé, mais il y a la dédicace. Si on parlait de cette dédicace, à Frédéric Chopin, ce crime littéraire par amour. Tout est là,
oui,
hein.
Oui, elle est arrivée tard, celle-ci, mais parce que, en fait, après, vous savez, les épreuves, des livres, ce qu'on appelle des épreuves, il n'y avait pas. Des fois, j'ai dédié des livres, je crois, toujours à des gens, ou à Glenn Gould, lui-même, quand j'ai fait un livre sur lui, ou je ne sais plus quoi. Mais là, je n'avais pas de dédicace. Donc, finalement, c'était Chopin à qui je voulais l'adresser. Donc, cette formule m'est venue. Cet aspect crime, je trouvais assez beau, assez Oscar Wilde, un petit peu, comme ça, un peu. Un peu fou, mais c'est un crime littéraire, parce que lui était le moins littéraire des musiciens. C'est ça le paradoxe. Il est là, le crime. Lui ne disait rien sur sa musique. Il voulait pas en parler. C'est l'antiliste, Chopin. Il n'y a pas de littérature, il n'y a rien autour. Alors que moi, je m'amène et je fais tout le contraire. Donc c'est ça qui est... Donc c'est un peu criminel, mais d'un point de vue littéraire. C'est une formule très littéraire, en fait.
Et qu'est-ce que vous appréciez le plus chez Chopin en tant qu'être humain, en tant qu'homme, à partir de ce que vous savez de lui?
Eh bien, pas forcément l'homme. Là, j'irais plutôt du côté de Liszt, mais si ce n'est cette intégrité artistique, justement, incroyable, cette pureté absolue, ce côté Mozart qui fait de la musique parce qu'il n'y a que ça à faire et jusqu'au bout. Et même si Chopin lui rayait tout, alors que chez Mozart, apparemment, tout venait sans problème. Mais il y a cette même exigence. Enfin, en tout cas, ils ne savent rien faire d'autre, quoi. Ils font de la musique comme nous, on respire. Et Chopin, pour ça, ne triche jamais, se met pas en scène. C'est un musicien d'une pureté absolue et qui égale les tout plus grands à ce niveau-là, qui égale Schubert, Mozart, Beethoven, bien sûr, et Bach. On est à ce niveau-là de génie et d'exigence avec Frédéric Chopin. Donc c'est ça que j'aime. Il est intouchable.
Il y a une pureté, il y a une innocence. Vous parlez de la fraîcheur innocente et quasi dansante, l'ingénuité confiante qui se retrouve dans ses concertos et dans certains de ses préludes, comme le 11e, par exemple.
Oui, bien sûr. Oui, il y a une perfection, l'air de rien. Tout y est. Harmoniquement, c'est génial. Mélodiquement, c'est un des plus inspirés d'histoire de la musique. La forme, il l'invente en permanence. Donc il y a tout, il y a juste à se taire et contempler. Parce qu'en même temps, c'est ça qui est paradoxal chez Chopin. Il nous parle tous en arrivant quand même à être à distance. On couche pas avec Chopin, voyez. On le voit. Et pourtant, on ressent des choses avec, comme avec personne d'autre. Mais c'est pas l'effusion absolue. Il y a pas de. Il reste une pudeur, une réserve. C'est un grand classique. Et il le savait, il le disait, il le voulait. Avec son ami Delacroix, il n'arrêtait pas là-dessus. Pour eux, Berlioz, même Beethoven, c'était un peu des débauchés. Eux, ils veulent des classiques. Or, il écrit quand même la musique la plus romantique, explosive qui soit, mais toujours dans une forme tenue. C'est ça le paradoxe et le miracle de Chopin, en fait.
C'est vrai que c'est incroyable comme il parle directement au cœur. Il y a Schubert aussi qui semble toujours nous murmurer à l'oreille comme un ami.
Oui, le plus proche, le plus frère, comme on dit, c'est Schubert, de tous. Chacun a son truc, en fait. Mais Chopin, je ne sais pas ce que c'est vraiment, en fait. C'est le plus mystérieux. Parce que pourquoi et comment il nous touche autant en nous tenant quand même un peu à distance, ça reste un mystère absolu. Et d'ailleurs, c'est terrible pour les pianistes. S'ils en font trop, ça va pas. S'ils en font pas assez, ça va pas non plus. Ou on est chopinien, ou on n'y est pas. Il n'y a pas de secret ni de porte. C'est quelque chose de. C'est un peu. Il a un côté sphinx, Chopin, vous voyez.
Il y a peut-être des affinités avec la lumière aussi. Vous écrivez dans votre livre « Le son est une onde comme la lumière ». Vous parlez du 19e prélude en disant « Il s'envole si haut dans le ciel, telle une alouette se jetant dans les bras du soleil ». Quelle belle formule. Ou comme un mystique au feu de Dieu. Vous avez envie de parler de ce prélude?
Je le vois comme ça, oui. Mais enfin, c'est plutôt Chopin à travers moi qui le voit comme ça. Oui. En tout cas, je le lui fais dire. Oui, alors ça, c'est vraiment des images qui me viennent. Parce que le 19e, c'est véritablement un jaillissement de joie. De joie absolue, extatique, et ça vole très très haut dans le ciel, c'est Icare, oui. donc c'est ça que je vois. Donc je vois des alouettes qui vont vers le soleil, ce sont des images qui me viennent assez naturellement, parce qu'il faut sortir des notes, il faut sortir de la musique, il faut sortir de la musicologie, n'en parlons pas, il faut sortir de tout pour pouvoir parler sur la musique, c'est mission impossible. Quand même, quelque part. Il y a des musiciens qui ne supportent pas qu'on parle de musique. Je pense qu'ils ont tort, parce qu'on peut communiquer avec tout, surtout. Et surtout à l'intérieur des arts. Et même peinture, musique, littérature, mais pas n'importe comment. Le défi, là, est vraiment redoutable.
Oui.
Donc, oui, il y a ça dans le 19e. C'est ivresse. C'est ivresse. J'aime beaucoup le mot d'ivresse, moi.
Ah oui. Est-ce que Liszt est du côté de l'ivresse? Est-ce qu'on couche avec Liszt?
Ah oui, parfois oui, sans problème. Sans problème, bien sûr. Mais on fait tout avec Liszt. Et il y a de tout. Il y a de la musique comme ça, un peu dépoitraillée, mais pourquoi pas, très bien. Et puis il y a la pureté aussi extraordinaire, que ce soit en si mineur, qui est un des plus beaux sommets de l'histoire du piano, tout le monde le sait. Donc il y a tout est possible chez Liszt. Tout est je suis en train de faire un livre qui renie les deux, alors du temps, ça tombe bien, et qui les oppose radicalement. Et tout est impossible chez Chopin, d'une certaine manière. Et tout est ouvert chez Liszt, et tout est enfermé chez Chopin. Chez Liszt, c'est le bazar universel, mondial, c'est le souk total, mais Chopin, c'est la chambre à coucher, c'est l'alcôve, c'est la serre, vous savez, tout est enfermé comme ça, et même dans son piano, il est enfermé. D'ailleurs, il écrit que pour lui. Enfin, Liszt, c'est exactement l'inverse. Il écrit pour tout, et pas que pour le piano, et puis il est ouvert au monde dans les formes les plus extraordinaires. Chopin, c'est un enfant. Liszt, c'est un géant. C'est deux contraires. C'est merveilleux de les opposer.
Et puis, quelle spiritualité chez Liszt. Mais il y a un point où ils ont une noblesse et une grandeur infinie, c'est le cœur. L'un et l'autre. Liszt était d'une générosité folle et Chopin avait une authenticité, une profondeur d'âme, non ?
Oui, mais chez Liszt, c'est sans égal et c'est incarné dans une forme de générosité que vous dites très bien, et c'est vers les autres, et c'est dans le don, et c'est sous toute forme. Chopin, il garde les choses quand même pour lui. Il dit tout, et il donne tout dans sa musique, certes, mais dans sa vie, il n'y a pas de témoignage, ça n'a rien à voir. Liszt, il est en acte, Aujourd'hui, pour nous, ce serait une figure moderne. C'est l'abbé Pierre, c'est Léonard de Vinci, c'est Che Guevara, c'est tout. C'est Régis Debray. Et tout ça, il l'a pris, il l'a mis ensemble. Et c'est lui-même, c'est incomparable. Chopin, c'est quand même, encore une fois, d'abord, il n'en a pas les moyens physiques de vivre à 2000 à l'heure comme ça. C'est quand même l'entre-soi, l'entre-soi. Et pour la musique, après, son cœur, il le donne, il l'exprime, mais avec sa famille, vous voyez, c'est le côté famille. Liszt, sa famille, c'est l'humanité. Sa chambre à coucher, c'est l'humanité.
Ouais.
C'est, vous voyez, c'est deux façons d'être au monde qui n'ont rien à voir. Et c'est les salons. Chopin, ce ne sont, et c'est pas péjoratif, hein, que les salons, l'expression. Liszt a inventé le concert moderne. La salle, la grande salle, on lui doit. Le récital, on lui doit.
Oui.
Cette forme monomaniaque de rockstar, c'est lui. Il a tout créé.
Oui, extraordinaire. Oui. Jean-Yves Clément, si on parlait, si on revenait au contraste dans ce recueil entre les préludes, notamment vous évoquez la noirceur du second après la blancheur du premier, est-ce que vous avez envie de développer cet aspect-là de contraste ?
Oui, j'en parlais tout à l'heure, c'est plus que des contrastes, c'est vraiment l'aspect, je disais, bipolaire de Chopin. La moitié du cahier a quelque chose près, mais presque vraiment totalement et d'humeur. Très noire, sombre, désespérée, rageuse, révoltée. Enfin, il faut écouter le 24e, mais il faut écouter tous les préludes, en fait, pairs. Vous voyez, c'est très, très, très simple. Et tous les préludes impairs sont une ode à la joie, à la lumière, à l'extase, comme ça, de céleste, l'ivresse dont je parlais tout à l'heure. C'est, l'hallucination est double, mais elle est ou noire, ou blanche, ou sombre et lumineuse, et il passe d'un état à un autre. C'est ça qui est très très dur pour l'interprète. C'est horrible. C'est qu'on a à peine dit ce qu'on avait à dire dans un sentiment, qu'on doit complètement inverser les choses pour dire le contraire en aussi peu de temps avant à nouveau de les inverser. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Une fois, Nikolaï Lougranski, qui est un très grand pianiste que j'ai engagé plusieurs fois, m'a dit que c'était plus difficile pour lui, pour les gens qui savent un peu de quoi je parle, de jouer les 24 études de Chopin, qui sont vraiment une bible de la virtuosité pianistique, beaucoup plus dur de jouer les 24 préludes, pardon, que les 24 études de Chopin, pour les raisons que je viens de dire. Vous voyez, ça demande de puiser en soi, comme un acteur, et de changer d'état aussitôt. C'est horrible. Donc le deuxième est l'antithèse du premier, le troisième, qui est en sol majeur, tellement solaire, est l'antithèse du deuxième, etc.
Et ça montre peut-être tout ce qu'il a dû traverser à Majorque, parce qu'il y a la maladie, on peut dire qu'il a failli y rester en fait. Il y a l'hostilité des habitants, le fait qu'on brûle le linge après son passage, ils sont traités comme des pestiférés. Et,
Oui, mais enfin à l'époque on pouvait guère leur reprocher. La différence d'aujourd'hui c'est que c'était vraiment un vrai poison. Ce qu'il avait, c'était vraiment contagieux. La phtisie, la tuberculose, on ne pouvait pas reprocher à ces gens d'essayer de nettoyer, de faire le ménage, de purifier les choses face à un danger mortel aussi réel. Même s'ils n'ont pas pris des gants pour le faire, il faut bien se rendre compte de ça.
Oui.
Justement, aujourd'hui, on en fait des tonnes, en tout cas, pour quelque chose de bien, bien, bien moindre que ça. Donc à l'époque, on disait « Oh, pauvre Chopin était maltraité ». Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, les Espagnols. D'abord, ils ne pensaient pas qu'ils avaient affaire à un génie ou deux génies pour autant, qu'il fallait l'épargner. Donc oui, ils l'ont un peu secoué, mais bon, c'était de bonne guerre, c'est pas si grave que ça. Lui en était mortifié, mais il était aussi mortifié par son propre intérieur. Moi, j'y suis allé à Majorque, c'est un univers incroyable de Valdemosa, ces paysages fantastiques. Et la façon dont la nature résonnait avec elle quand le temps était mauvais, ce qu'ils ont connu beaucoup, ça a soulevé son imaginaire, ses terreurs, ses angoisses, ça a révélé ce qui portait en lui. Dans la réalité, ils les ont pas mis au fer, ils ont pas souffert tant que ça, faut pas... Vous voyez, il y a beaucoup d'exagération de la part de George Sand, d'ailleurs, sans doute.
Vous évoquez la peur et parfois on a l'impression qu'il est proche d'hallucinations. Vous décrivez un prélude qui semble refléter le son des gouttes de pluie qui tombent sur la Chartreuse et une nuit qui est véritablement une nuit de terreur puisque Georges était allé se promener et qu'il ne rentrait pas. Il a vraiment été plongé là dans quelque chose d'extrême.
Oui, c'est une fameuse scène que relate Georges Sand, effectivement hallucinatoire, quand il les voit apparemment revenir d'une promenade. Il dit qu'il pensait qu'ils étaient morts, voilà. Mais tous les préludes sombres ont un côté comme ça, très, très noir et hallucinatoire. Et, mais Chopin a été sujet à ce type d'hallucination. Mais quand on est un compositeur à ce niveau-là, on comprend en même temps qu'on puisse se laisser emporter dans sa musique. Enfin, en même temps, lui, c'était particulier. Apparemment, ça, il y a beaucoup d'exemples de cette forme de possession, on va dire, par la musique. Ah oui, mais quand on est un génie de cette stature... Enfin, les autres semblaient plus calmes par rapport à ça. Beethoven, Bach quand même, Schubert. Chez Chopin, il y a effectivement quelque chose d'assez... Bon, c'est le romantisme aussi, hein. Je sais pas.
Et quand on écrit sur cette musique et sur ce couple-là, est-ce qu'on a aussi des moments comme ça avec des états d'âme un petit peu extrêmes ou hors du temps?
Oui, bien sûr. Pour essayer d'écrire, le problème c'est toujours d'écrire un peu au niveau du sujet dont on s'est emparé. Et, il faut bien arriver à rentrer dans ce type d'état, mais la musique, de toute façon, vous y emmène, vous y incite. Il n'y a pas de problème à être en empathie avec ces musiques aussi extraordinaires quand vous écoutez ça par des grands interprètes, en plus qui eux-mêmes sont un peu possédés par elles. Oui, il faut toujours l'enthousiasme pour tout dans cette vie, pour être authentique, comme on le disait tout à l'heure. Donc quand on écoute tout ça à très haut niveau, cet enthousiasme, si je puis dire, qui est une vraie notion pour moi, vous emporte. Et sinon, l'inspiration, comme on dit, ne vient pas non plus, où c'est artificiel. Donc oui, tous ces moments-là existent. De toute façon, c'est des choses qui vous travaillent un peu pendant des semaines, des mois, quand vous écrivez des choses pareilles, vous vivez avec. Mais moi, j'écris un livre sur Scriabine, qui est un génie absolument de la musique, largement aussi halluciné que Chopin. J'ai vécu avec Scriabine pendant des mois. Oui, ça ne vous laisse pas indemne de fréquenter des gens pareils, quand vous écoutez vraiment leur musique, vous êtes dedans.
Enthousiasme, est-ce que c'est pas un des plus beaux mots du dictionnaire?
Si, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment l'âme, je sais plus l'étymologie grecque, mais c'est vraiment l'âme qui est soulevée, c'est ça. Il faut faire les choses avec enthousiasme dans cette vie, c'est un mot très important. Enthousiasme, gratitude, générosité, enfin voilà, le cœur, la bonté, enfin toutes ces vraies vertus, c'est avec ça qu'on vit, qu'on bouge, c'est avec ça qu'on survit même, c'est avec ça qu'on se protège. C'est pas en étant replié sur soi et à être hostile à l'autre, et sans ouverture. Et... Voilà, donc la culture, normalement, contient tout ça. On y revient.
Et c'est intéressant quand ça se reflète dans la vie. Quand il y a ce duo entre la vie poétique, littéraire, et puis la vie de tous les jours.
Oui, il faut que ça soit un méli-mélo qui tienne bien la route et qu'on bascule pas trop dans l'un, dans l'autre et que ça s'accompagne. Mais c'est vrai, l'intérêt, par exemple, vous parlez d'inspiration, c'est d'être inspiré dans ce qu'on fait, dans tout, dans la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits sujets d'inspiration. Ça, c'est des croyances, je suis Chopin ou rien, non. Quand on fait ses courses, quand je fais je ne sais pas quoi, on a le droit, le devoir, on fait la cuisine, voilà, on va comprendre, d'être inspiré, c'est même une nécessité. Chacun est artiste à sa mesure. Et la vie, c'est ce qu'elle demande, une inspiration. On est inspiré à vivre, sinon ça ne va pas. Et c'est là que la maladie arrive. Il faut, pour être vivant, la vie demande que ça, de nous inspirer. C'est comme, c'est le souffle. C'est le souffle. Et on sait bien que des fois, on est inspiré dans des petites choses, qu'on en est content d'ailleurs. On sent bien que cette sensation est différente de l'ordinaire. Donc il faut essayer de transgresser l'ordinaire en y mettant ce souffle-là qui nous est donné par la vie, en fait, le plus possible. Moi, je suis très inspiré, souvent en faisant des courses, des choses comme ça, l'idée, je vais acheter ça, parce que c'est comme un jeu, vous voyez, c'est plutôt que ça, c'est comme un jeu, c'est des envies, c'est quelque chose de... Voilà, mais c'est être vivant le plus possible, hein, vous savez. Si Liszt est un modèle pour moi, c'est parce que c'est un modèle d'être vivant. Absolument vivant.
Oui, c'est à voir avec une joie de vivre qui peut être naturelle et puis qui peut-être parfois demande une certaine décision, un certain acte de volonté.
Ça demande une confiance en soi, une confiance en l'autre, une ouverture, une adhésion. Ça demande d'arrêter de se plaindre pour écouter tout ce qu'il y a autour. Ça demande de vieillir. Parce que plus on vieillit, plus on s'ouvre à tout ça. Voilà.
J'ai l'impression, en vous écoutant, que c'est plutôt une sorte d'éternelle jeunesse.
Oui, mais bien sûr. Mais vous savez, je porte comme un étendard cette autre phrase de Cocteau qui dit « il faut beaucoup de temps pour devenir jeune ».
Voilà.
Ça, j'adore cette phrase et c'est exactement ce que vous dites. Bien sûr, c'est pour rajeunir qu'on vieillit. Il est là le paradoxe.
On se libère peut-être.
Parce que oui.
Oh pardon, je voulais pas vous interrompre.
Bien sûr qu'on se libère. Parce que des jeunes vieux, on en connaît tous, hein. Des jeunes déjà vieux qui n'ont jamais été jeunes, mais finalement du coup qui seront jamais vieux. Parce que être vieux, c'est effectivement rajeunir. Allez donc faire comprendre ça à nos âmes pensantes. Mais c'est exactement ça, bien sûr. Vieillir, c'est devenir de plus en plus vivant. Un drôle de paradoxe, hein ?
Oui. Tout est toujours possible.
Et on retrouve comme ça cette espèce d'ingénuité de l'enfance. L'enfant, il est directement vivant, il ne se pose pas toutes ces questions. Il est dans l'instant et il vit. Et en fait, vieillir, c'est apprendre à retrouver ces instants-là de plus en plus, au moment où ils deviennent de plus en plus précieux, sacrés, parce qu'on en a de moins en moins. C'est là où on a la chance de les retrouver, du début. Tout ça a beaucoup de sens. C'est comme dans le film de Kubrick, à la fin, j'adore, parce qu'il se retrouve, il a considérablement vieilli dans 2001, Odyssée de l'espace, et à la fin, on le voit comme comme au début, dans le ventre de sa mère. Il y a cette image, le vieux a rejoint l'enfant, évidemment.
Et cette présence à l'instant, est-ce que c'est celle aussi de la création ? On peut imaginer dans l'esprit des compositeurs ou quand vous écrivez un poème ou un texte sur Chopin, est-ce qu'il y a quelque chose de cette présence, de ce don total dans l'instant ou cet accueil,
je ne sais pas. Oui, bien sûr. C'est une adhésion totale au moment. D'ailleurs, avec le recul, on a l'impression que c'est un autre qui nous faisait faire ça, tellement on était dedans. Parce que quand on n'est plus dedans, on voit bien le décalage. Effectivement, quand on est dedans, c'est à 100% et c'est pour le coup, à nouveau, comme une possession que je disais tout à l'heure, tellement on est dans ce qu'on fait. On adhère totalement à ce qu'on fait. Finalement, le plus beau dans la vie, ce serait à chaque fois d'adhérer totalement à tout ce qu'on fait, du même endroit.
Ça va devenir grandiose.
Oui, peut-être un peu trop, peut-être ce sera insupportable aussi. Après,
non, on sait plus.
Mais c'est pas qu'une extase permanente, la vie de ce type-là, mais. En tout cas, c'est de se satisfaire de ce qu'on est à chaque instant, autant qu'on peut. Ça, c'est déjà beaucoup. Hein.
Et on sent dans le style une liberté, un rythme, un souffle aussi. Comment est-ce que la musique vous a influencé par rapport à ce rythme de vos phrases ?
Ah oui, tout à fait. Le grand maître, pour moi, c'est la musique. Alors, expliquer comment ça se passe de l'un à l'autre, c'est un peu difficile, impossible. Et puis, c'est au fur et à mesure du temps. Mais la grande éducatrice, la grande enseignante, pour moi, c'est la musique. Apprendre l'économie des mots, la sobriété, comme vous le disiez, le sens du rythme, des choses comme ça. Faire de la musique avec des mots, pour le dire bêtement, oui, c'est ça le but. Et ça, je l'ai beaucoup appris avec... Aussi en allant chez Friedrich Nietzsche, dont je parlais tout à l'heure, qui est un musicien des mots, de la pensée, un musicien tout court aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et dans la prose, comme dans la poésie, parce que finalement tout ça doit se confondre. Mais la musique, oui, toujours.
Et vous montrez comment George Sand voulait parfois mettre des mots sur les préludes, mais ce n'est pas nécessairement une chose facile. Vous dites
ça,
la musique est le règne de l'équivoque.
Oui, absolument. Ça, c'est l'origine du défi numéro un qui était le mien quand j'ai écrit un livre où il y a à chaque fois un titre, des préludes et puis une pensée, un aphorisme qui renvoie un deuxième livre, etc. Je voulais reprendre exactement le défi de George Sand, dont on n'a pas retrouvé trace vraiment, d'ailleurs, mais dont Solange, sa fille, témoigne, de titrer les préludes, ce qui est vraiment un défi d'une grande lourdeur quand on pense à ce que Chopin pouvait considérer de la sorte. Il serait bien moqué de tout ça. Oui.
Et quand vous avez terminé le livre, est-ce que je peux vous demander le sentiment que vous avez eu qu'est-ce que écrire ce livre vous a apporté ?
Une fréquentation de Chopin au plus près. J'ai l'impression que là, j'en avais un peu fini avec lui, parce que j'ai beaucoup fait de choses, des spectacles, beaucoup de choses, et puis des poèmes, des textes divers, un autre essai, Les deux âmes de Frédéric Chopin. Donc peut-être être allé jusqu'au bout de ma fréquentation avec lui, pour finir par faire un livre qui soit le moins encore musical, musicologique possible, mais le plus littéraire, qui devienne un sujet de roman, presque, en fait. En fait, le retour de Majorque, j'ai mis le journal de Frédéric Chopin, bon, c'est évidemment, c'est tout à l'heure, mais c'est une espèce de roman, finalement. C'est comme ça que je le prends. Donc, c'est là où je suis allé le plus loin. Et puis, on ne va pas tout raconter, mais au début, à la fin du livre, je fais référence justement à l'écriture aphoristique, à d'autres choses que j'ai faites dans le même style, des sortes de préludes, mais cette fois en connexion avec la peinture. Oui. Donc, il y a tous ces fils que je tisse. Donc, pour moi, c'est une sorte d'aboutissement. Voilà, en ayant trouvé une forme vraiment originale et cette mise en abîme des préludes, donc je reste assez content de ça.
Et puis, en fait, il y a une écoute d'une discipline artistique, enfin d'un domaine artistique par rapport aux autres aussi. Il y a beaucoup d'écoute entre la musique, les mots, la peinture. Il y a beaucoup de liens qui se créent.
Oui, c'est une écoute permanente. Et puis même l'écoute amicale de l'autre. Parce que on parlait tout à l'heure, j'ai l'impression d'être au milieu d'eux, mais Sand, Chopin, ce sont comme des amis. J'évoque un peintre à la fin, Jean-Marc Brunet, avec qui j'ai fait des correspondances littéraires, comme ça. C'est aussi une relation amicale. Je crois beaucoup à l'amitié, relation entre au-delà des œuvres, c'est mon côté listien, les connexions avec les hommes eux-mêmes, et la façon dont tout ça doit circuler, comment ça circulait au 19e, avec toutes ces correspondances entre les uns et les autres. C'était quand même l'art et la culture, c'est quand même avant tout une histoire d'hommes.
Oui.
On ne crée pas dans nos laboratoires les uns à côté des autres et chacun lit l'autre. Non, l'autre inspire. On n'a pas attendu Freud pour savoir que de toute façon, sans l'autre, c'est pas possible. C'est l'autre nous renvoie à nous-mêmes et que tout commence à deux. Donc nous, on écrit pour un lecteur fut-il fantasmatique, imaginaire, mais on écrit à la fois pour soi et pas que pour soi. C'est compliqué comme truc.
Faut
vraiment écrire pour soi, pour faire vraiment quelque chose qui dépende pas, on n'attend pas un libraire, un éditeur, vendre des livres, tout ça. Non, c'est vraiment parce qu'on doit. Rilke, il parle très bien de tout ça. C'est parce qu'on doit. Oui, dans les lettres, un jeune poète, il dit tout de ça. Une nécessité intérieure et profonde, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais en même temps, en arrière-pensée, il y a quand même un lecteur, c'est qui est à la fois nous-mêmes et un autre, dirait Verlaine. Il y a quand même un lecteur imaginaire, même s'il correspond rien de concret. C'est ça.
Mais ce que vous décrivez, ça n'a pas à voir avec la liberté. Quand vous dites
une forme de liberté. Je sais pas. Est-ce que seul sur une île et en sachant qu'on verra plus jamais personne de sa vie, est-ce qu'on écrirait en fait ? C'est ça la question. En fait, je sais pas trop. Oui, je pense que oui quand même. Parce que le lecteur reste justement un fantasme.
Oui. Et puis peut-être parce qu'on est fait pour ça.
Puis on est fait pour ça. Et le lecteur, c'est nous. Enfin là, dans le cas de Majorque, le lecteur, finalement, c'est Chopin aussi. C'est Chopin qui me lit, moi, écrivant à sa place. Il y a un truc comme ça aussi, un peu...
merveilleux.
Ça va devenir un thriller, cette histoire.
On revient au crime.
Chopin me tue, ou je tue Chopin. Il faut que j'imagine une suite. Un major qu'en plus, ça s'y prête bien.
La chartreuse,
oui.
Une nuit de pleine lune.
C'est vraiment sublime. C'est aujourd'hui, comme George Sand l'a décrit dans Un hiver à Majorque, qui est un livre sublime auquel je renvoie, qui est un livre merveilleux. Et elle est toujours aussi surnaturelle, cette chartreuse. C'est la même, il faut y aller. C'est comme la Corse, Majorque, c'est pas loin.
Oui, oui.
Palma et puis Valdemossa, en 20 minutes, on y est.
Jean-Yves Clément, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ?
Non, cet entretien était très agréable, mais si j'ai pas d'autres questions, j'ai rien à ajouter. Vous voyez, c'est l'autre, toujours.
Oui.
Le reste est dans mon livre.
Est-ce que vous avez envie de parler d'un rêve ?
Un rêve ?
Question totalement ouverte.
Ce livre était un rêve pour moi-même et je l'ai accompli. En fait, un projet pareil, c'est assez onirique et ça reste un rêve. J'aime bien la notion de fantasme quand j'y reviens souvent, mais donc c'était ça, je l'ai accompli. Voilà, c'était ça ce rêve. Il n'y a que de celui-ci dont je peux vous parler actuellement.
Eh bien.
Un rêve de Chopin. J'ai rêvé Chopin un peu.
Oui, mais on peut atteindre beaucoup de réalité à travers le rêve.
On est tous des rêveurs, mais des rêveurs éveillés, des artistes, des écrivains, des rêveurs éveillés.
Il y a au moins autant de vrais dans les rêves.
Mais la vie est un rêve, dit Calderon, je ne sais plus qui cite ça, Schopenhauer, je ne sais pas, la vie, la vie est un rêve elle-même. La vie, ce n'est pas la réalité de Jean Castex, c'est que c'est autre chose que ça, la vraie vie, vous savez. Enfin, Jean Castex, c'est une blague plutôt franco-française, non ?
Non, mais ça va, je pense comprendre.
Oui.
Un très très grand merci. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Axel, de votre accueil.
Et merci pour ce beau voyage.
Merci.
Et c'est la fin de cette émission sur la musique et les lettres. Ce soir, nous étions en compagnie de Jean-Yves Clément, qui parlait de son livre « Le retour de Majorque », paru aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Merci encore à lui.